Bonjour à chacun, à chacune d'entre vous. Je vous apporte les salutations fraternelles des paroisses de Herstal et de Chorate. Et vu que nous sommes toujours au mois de janvier et que on peut toujours faire les vœux, permettez-moi de vous faire les vœux pour cette nouvelle année 2020. Et j'aimerais vous laisser en guise de vœux les versets 24, 25 et 26 qui nous viennent de Nombre 6. C'est la bénédiction d'Israël. C'est la bénédiction par laquelle Dieu a dit à Israël « Tu béniras ainsi mon peuple ». Nombre chapitre 6, versets 24, 25 et 26. Alors ce n'est pas la prédication, c'est les vœux que je vous laisse. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. C'est mon souhait pour chacun de vous, que Dieu puisse vraiment vous remplir de sa grâce et de sa bénédiction, tel qu'il a promis, parce qu'il est un Dieu de parole. Et il veille sur sa parole pour l'accomplir. Nous voici à l'aube d'une nouvelle année, l'année 2020. Et comment allons-nous la vivre? Comment allons-nous la commencer? Quel héritage allons-nous apporter avec nous dans cette nouvelle année? Cet héritage est différent pour chacun de nous, car nous sommes uniques. Nous sommes tous différents, nous avons des vies individuelles avec notre passé, nos conditions sociales. Et la question que nous devons nous poser en cette année 2020, c'est quelle sera notre vie cette année? Identique à l'année dernière ou bien avons-nous le désir que cette nouvelle année soit différente, qu'elle devienne pour nous un nouveau départ, un nouvel élan? Une année qui soit mieux, un pas en avant. Eh bien, je pense que c'est à chacun de nous de nous poser la question, mais aussi de rechercher toute l'aide que Dieu nous a promise, que Dieu nous fait, et la réalisation de ses promesses qui sont oui, amen, parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Alors, j'aimerais lire avec vous deux textes. Tout d'abord, Esdras, chapitre 3, verset 1 à 6. Esdras, chapitre 3, du verset 1 à 6. À l'aube du septième mois, les Israélites étaient installés dans leur ville, et le peuple se rassembla comme un seul homme à Jérusalem. Josué, fils de Jotsadak, accompagné de ses frères les prêtres, et Zorobabel, fils de Shealtiel, accompagné de ses frères, se levèrent et reconstruirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes, conformément à ce qui est écrit dans la loi de Moïse, l'homme de Dieu. Ils rétablirent l'autel sur ses fondements, malgré la peur que leur inspiraient les populations installées dans la région, et ils y offrirent des holocaustes à l'Éternel. Les holocaustes du matin, les holocaustes du soir, ils célébrèrent la fête des tentes conformément à ce qui est écrit, et ils offrirent jour après jour des holocaustes suivant le nombre fixé pour chaque jour. Après cela, ils offrirent l'holocauste perpétuel, les holocaustes du début du mois et de toutes les fêtes consacrées à l'Éternel, ainsi que ceux de toute personne qui faisait des offrandes volontaires à l'Éternel. Dès le premier jour du septième mois, ils commencèrent à offrir des holocaustes à l'Éternel, alors même que les fondations du temple de l'Éternel n'étaient pas encore posées. Deuxième lecture, dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 4, et nous lisons le verset 3. En effet, voici ce que dit l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Amen. Nous verrons d'autres lectures en cours de méditation, mais j'aimerais partager avec vous, un peu en m'inspirant aussi de ce qu'a dit Jean-Luc dans son introduction et du chant que nous venons de chanter, voir la grandeur de Dieu se manifester. Et il est vrai, je pense, que chacun de nous, dans notre vie de tous les jours, nous aimons voir Dieu faire éclater sa puissance, sa gloire. Quand l'on constate ce qui se passe autour de nous, ce qui se passe dans nos propres vies, les problèmes et les difficultés que nous traversons à un moment ou à un autre, lorsque nous voyons la souffrance frappée de plein fouet, des gens que nous aimons, des gens que nous côtoyons, notre voisin, peu importe. Lorsque nous voyons l'homme de plus en plus mettre Dieu de côté dans sa vie, nous aimerions voir Dieu se manifester. Dieu agir avec force et puissance. Et lorsque nous voyons la perfection de la nature, moi j'aime tout particulièrement Ushuaïa. J'aime voir ces émissions. Et lorsque l'on voit dans le détail la grandeur de la création de Dieu, comment l'homme peut-il douter de l'existence de Dieu? Et pourtant, l'homme, dans ce 21e siècle, plus que jamais, a tendance à vouloir mettre Dieu de côté. Et nous? Est-ce que, frères et sœurs, nous nous laissons emporter par la tendance de la société dans laquelle nous vivons et nous relativisons l'impact de Dieu dans nos vies, dans la société? Ou bien sommes-nous conscients que depuis le début de la création, Dieu est maître souverain sur toute chose et que rien ne lui échappe? Et qu'il y a un plan, qu'il y a une destinée pour chacune de nos vies et pour l'humanité entière. Le texte de ce matin nous dit que le peuple s'assembla comme un seul homme. La devise de notre pays, c'est « l'union fait la force ». Et Jésus dira « Père, qu'ils soient un comme toi et moi sommes un ». Et il affirmera également que c'est par l'amour dont vous vous aimerez que le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. La première chose que nous montre le texte, c'est que l'unité, c'est avec l'unité, on peut faire des grandes choses. Et si Dieu a voulu que nous persévérions dans la communion fraternelle, c'est justement parce qu'il savait pertinemment bien que nous avons besoin les uns des autres. Et que dans notre vie de tous les jours, seul, on ne fait pas grand-chose. Personne ne peut dire « Moi, je n'ai pas besoin de toi ». Nous avons tous nos failles, nous avons tous nos limites, nous avons tous, permettez-moi de le dire, nos incompétences. Et c'est dans l'unité que nous démontrerons notre force et que nous serons forts. Pourquoi ? Parce que de même que j'ai besoin de toi, mon frère, ma sœur, tu as besoin de moi. Mon frère, ma sœur, que cela te plaise ou non, Dieu en a décidé ainsi. C'est pour cela que dans les Écritures, l'Église est vue tantôt comme un corps, et un corps, il est constitué de différents membres, ou alors comme un bâtiment, comme une maison, dont les briques montent le mur. Elles sont côte à côte, elles se tiennent, elles sont unies pour former cet édifice à la gloire de Dieu. Et nous sommes tous appelés à honorer Dieu dans notre vie de tous les jours. Le peuple s'assembla comme un seul homme, nous est-il dit. La société nous observe, frères et sœurs, pour voir si ce que nous disons, nous le vivons. Pour voir si notre foi n'est pas uniquement faite de mots en l'air. On est habitué à parler beaucoup, à dire des choses à tort et à travers. Et vous savez le dicton qui dit « ce que tu es, crie plus fort que ce que tu dis ». Et bien souvent, nous parlons beaucoup et nous manifestons où nous attestons tout un nombre de choses au sujet de Dieu, au sujet de notre vie, et puis dans les faits, dans la réalité de la vie, et bien souvent, nous devons admettre que nous contredisons ce que nous avons exprimé verbalement. Et la société le voit et nous observe. Nous sommes à une époque où deux attitudes prévalent. La première, à l'extérieur, à l'Église. Elle consiste à dire « Dieu n'existe pas comme le fou » dans le psaume 14, verset 1. Dieu, la foi, sous des idées d'autrefois, l'homme moderne ne croit pas en Dieu et en sa parole. Ce n'est qu'un amas de vieilleries, de légendes. L'autre de ces, comment vais-je dire, de ces points, c'est que, de ces attitudes, c'est que, elle est interne à l'Église. Elle consiste à établir toute une série de clichés. Il faut beaucoup de chants pour être une bonne église. Il faut du bruit, une ambiance. Il faut faire ceci ou cela. Et face à ces deux attitudes, il y a la parole de Dieu de laquelle chacun, sans crainte, s'arroge le droit de faire dire tout et n'importe quoi. D'où les nombreuses conséquences que cette même parole met en évidence pour nous avertir, nous interpeller. On ne se moque pas de Dieu. C'est vrai, Dieu est amour et miséricordieux, mais il est aussi un feu dévorant, qui ne donne pas sa gloire à un autre, quel qu'il soit. Et l'histoire d'Israël, que nous connaissons tous, est un exemple vivant de cela. Israël qui avait reçu toutes les bénédictions de la part de Dieu, Israël qui avait reçu toutes les promesses, Israël qui s'est permis, qui s'est donné le droit de faire tout et n'importe quoi et de vivre comme bon lui semblait. Rien ne peut s'opposer au vouloir de Dieu. La question est néanmoins celle-ci, frères et sœurs, voulons-nous voir la majesté de Dieu? Nous l'avons chanté, manifeste-toi. Voulons-nous voir la majesté de Dieu dans nos vies, dans l'Église, dans le monde dans lequel nous vivons? Voulons-nous voir la majesté de Dieu dans la restauration de nos familles, de notre couple, de l'Église? Voyons quelques remarques que le texte d'Esdras nous montre. La première démarche est de venir dans la présence de Dieu. Le texte nous dit que le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Jérusalem était l'endroit que Dieu avait choisi pour y faire résider son nom, pour lui rendre culte. Ceci était valable naturellement à l'époque. Plus tard, Jésus dira dans l'évangile de Jean, chapitre 4, que l'heure viendra où ce ne sera ni à Jérusalem, ni vous connaissez ce texte, mais le Seigneur aura des adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. C'est-à-dire adorer Dieu en ayant une attitude honnête et vraie. Pas d'hypocrisie devant Dieu, pas de façade. C'est cela, la première démarche. La deuxième démarche, c'est se lever pour Dieu. Pas pour paraître, mais pour honorer Dieu. Josué et Zorobabel se mettent à l'œuvre pour servir la gloire de Dieu. Ils le font dans un esprit de crainte, c'est-à-dire de respect profond de Dieu. Ils ne le font pas pour paraître, pour être bien vus, mais ils le font dans un profond respect. Et voyez-vous, frères et sœurs, trop souvent nous nous mettons au service de Dieu avec des attitudes qui ne sont pas saines, avec des attitudes qui ne sont pas conformes. Et loin de moi de faire le moralisateur, parce que s'il y a bien quelqu'un qui doit se mettre tout d'abord en règle, c'est bien moi. Donc, c'est pas du tout le cas. Mais la réalité, c'est la réalité, et il faut se regarder en face dans le miroir et se voir tel que nous sommes. Et je le disais au début, nous avons tous nos failles, nos limites. Et servir Dieu, c'est le servir dans un esprit de respect, avec humilité, pour sa gloire. Troisièmement, il faut construire selon les règles de Dieu. Heureux l'homme qui marche selon les commandements de l'Éternel. Psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Josué et Zorobabel rétablissent l'autel sur ses fondations. Sur sa base, ils ne construisent pas à leur façon, mais d'après le modèle et les plans agréés par Dieu. Et nous sommes appelés, frères et sœurs, à construire notre service chrétien selon les règles de Dieu. Et les règles de Dieu, quelles sont-elles? Tout d'abord, un amour vrai, sans hypocrisie. C'est cela que nous sommes appelés à vivre. Un service vrai devant Dieu, qui ne pointe pas du doigt la moindre peccadille de l'autre, mais qui se regarde d'abord. Qui ne enferme pas l'autre dans une série de lois et d'ordonnances, mais qui se voit lui-même imparfait, et qui reconnaît en Dieu ce Père aimant. Et un Père aimant, frères et sœurs, il a de la patience pour ses enfants. Il veut que ses enfants deviennent des adultes responsables et vrais. Et donc, il va travailler. Il va avoir de la discipline. Oui, il va avoir des moments de colère, peut-être, d'énervement. Mais il ne va jamais manquer d'amour pour son fils, sa fille. Au contraire, il va vouloir tout faire pour qu'ils deviennent des adultes responsables et qu'ils soient des hommes et des femmes capables de s'assumer dans la vie d'adulte. De même, dans l'Église, nous devons servir avec cet état d'esprit. Or, nous appuyons sur ce Dieu aimant, qui est un Père et qui veut le meilleur pour chacune de nos vies. Voilà à quoi nous sommes appelés, construire d'après les règles de Dieu. Je pense que si nous écoutons bien ce passage de Jérémie que nous avons lu, « Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines », eh bien, il y a là tout un programme pour chacune de nos vies. Alors, pour moi, c'est encourageant. Ce n'est certainement pas un reproche, mais c'est une invitation à constater où nous en sommes. « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier ». À travers la parole de Dieu, de voir où nous en sommes en tant qu'individus, en tant qu'enfants de Dieu, mais aussi en tant qu'Église. On pourrait se tromper et on peut changer. Si je me suis trompé de route pour aller en Italie, eh bien, je corrige pour arriver à bon port. Et je pense que c'est exactement la même chose dans notre vie de tous les jours. Déchiffrez-vous un champ nouveau. C'est Dieu qui parle à travers le prophète. Et il nous le dit à nous aujourd'hui aussi. Défrichez-vous un champ nouveau. Peut-être, mon frère, ma sœur, dans ta vie, il y a eu des moments d'égarement. Peut-être, dans ma vie, il y a des moments d'égarement. Et peut-être que, eh bien, j'ai besoin de corriger ma vie. De même qu'un champ peut être rempli d'épines, peut être rempli de mauvaises herbes. Et le champ, à l'époque, c'était ce qui faisait vivre le peuple. Le champ, c'était la source de revenus première du peuple. Et ils sont invités à se défricher un champ nouveau, c'est-à-dire d'enlever tout ce qui est contre la culture, les mauvaises herbes, les épines, afin de le rendre apte à porter du fruit. Et nous sommes invités, frères et sœurs, à enlever de nos vies, vous savez, le champ, c'est souvent le cœur. Souvenez-vous de la parabole de Jésus en Matthieu 13, avec les différents cœurs. Nous sommes invités à enlever de nos vies, de nos cœurs, tout ce qui peut être un empêchement à porter du fruit à la gloire de Dieu. Et quelles sont ces choses? C'est peut-être une mauvaise compréhension des Écritures. C'est peut-être des mauvaises habitudes que nous avons prises dans notre vie. Se croire capable de bien vivre indépendamment de Dieu. C'est peut-être un jour dans l'église, un jour à l'extérieur, clopin, clopon. C'est peut-être à l'image du roi Matthia. La Bible nous dit qu'Amathia servit Dieu, mais son cœur n'était pas entièrement pour Dieu. Il avait un cœur partagé. Son cœur n'était pas complet pour Dieu. Et on pourrait être de ceux-là, ne pas avoir un cœur complet pour Dieu. Et ce matin, nous sommes invités à être entiers pour Dieu, à nous défricher en cette nouvelle année qui commence un champ nouveau, à balayer nos vies, à retourner la terre de nos vies, afin d'enlever tout ce qui pourrait être une obstruction au fait et au désir de Dieu, c'est-à-dire que nous portions du fruit et du fruit en abondance. Et Jésus dira, c'est ainsi que vous glorifierez votre Père céleste. Portez du fruit en abondance. Mais pour ce faire, il nous faut être aptes à porter du fruit. Et seule une terre, un champ nettoyé, où on a enlevé tout ce qui est un empêchement à la culture, peut porter du fruit. Et puis, il termine par cette phrase, « Ne semez pas parmi les épines. » Ne semez pas parmi les épines. Dieu nous aime. Il est un Dieu extraordinaire. Je vous l'ai dit, il est un Père aimant. Et ses paroles ne sont pas faites pour nous mettre un poids sur les épaules. Au contraire, elles sont faites pour nous libérer, pour nous donner de bien vivre, de grandir. Et ce qui est extraordinaire, c'est que lorsqu'on lit la parole de Dieu, lorsqu'on lit la Bible, on trouve tout un tas de cas de vie. Il y a David, l'homme selon le cœur de Dieu, et on voit toutes les bourdes, si je peux m'exprimer, qu'il a fait. Et on se dit, Dieu est un Père aimant. On voit Samson, quelle force extraordinaire il avait reçue de Dieu, mais quelle bêtise il a fait aussi. Et on voit tous les hommes, les femmes de Dieu qui sont dans la parole, qui nous parlent et qui nous montrent que Dieu est amour, grâce et miséricorde. Et que ce que Dieu veut, c'est à travers leur exemple, construire dans notre vie une vie proche de Dieu, à l'image de Dieu. Il nous invite à travers des attitudes à suivre et des attitudes à ne pas suivre, qui se trouvent à travers les différents personnages, à vivre dans sa proximité. Que le Seigneur puisse nous donner à chacun de prendre conscience que nous pouvons tout à nouveau redémarrer cette année 2020. Démarrer, elle est déjà démarrée depuis quelques jours, mais de la meilleure façon possible. En nous laissant conduire, instruire, enseigner par ce Père aimant, ce Père de grâce qui nous a manifesté l'immensité de son amour en Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Et mon souhait pour chacun de nous, parce que nous avons tous besoin de sa grâce, c'est que nous puissions être des enfants attentifs. Des enfants attentifs à sa voix et à son enseignement afin de bien vivre et de grandir dans sa présence. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Je vous invite à la prière. Tu es le Dieu de notre salut. Tu es le Dieu de notre espérance. Que ferions-nous sans toi? C'est toi qui as dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et ce matin, nous nous présentons devant toi humblement, toi qui es notre Père, toi qui es notre Seigneur et Sauveur, toi qui nous as aimés le premier. Cet amour, tu nous l'as manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous venons vers toi humblement ce matin et nous voulons, oui, nous défricher un champ nouveau. Nous défricher un champ nouveau afin de mieux te plaire, afin de mieux te servir, afin de mieux porter du fruit pour ta gloire. Ce que tu veux, c'est que nous soyons comme toi. Ta parole dit « tel il est, tel nous sommes dans ce monde ». Alors Seigneur, tu nous appelles à être lumière du monde, celle de la terre. Mais sans toi, nous sommes conscients que nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi nous implorons ta bénédiction sur chacune de nos vies, ta bénédiction sur nos églises, afin d'être attentifs à ta voix, afin d'être attentifs à ta parole et de la mettre en pratique pour te donner toute gloire. C'est au nom de Jésus-Christ que nous appelons ta bénédiction sur nos vies et sur nos familles. Que ton nom soit béni. Amen.